en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Jean Fourastier a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en section de morale et de sociologie. C'était le 25 mars 1968. 11 ans plus tard, il fut président de l'Académie, c'était en 1979. Économiste de renom, auteur de livres d'économie à succès, ce qui est assez rare pour être souligné, tels que Le Grand Espoir du XXe siècle, paru en 1949, Les 40 000 heures, paru en 1965, et surtout Les 30 Glorieuses, paru en 1979, point de départ de l'expression « les 30 glorieuses ». Jean Fourastier a notamment passé 26 années au commissariat au plan et beaucoup de temps à enseigner, notamment à l'École nationale de l'administration et au Conservatoire national des arts et métiers. Il est décédé le 25 juillet 1990. Jean Cluzel a été élu à son fauteuil un an plus tard. Il est aujourd'hui dans ce studio. Bonjour Monsieur Cluzel.
Bonjour Priscille, je suis heureux de me trouver dans ce beau studio sur les quais de Seine.
C'est donc à vous, Jean Cluzel, que revient la tâche et l'honneur de retracer l'œuvre et la vie de Jean Fourastier. Vous l'avez fait devant l'Académie des sciences morales et politiques le 27 avril 1993. Et voici donc quelques extraits de votre discours. Nous vous écoutons.
Je vous remercie de me donner la parole sur l'antenne de Canal Académie pour refaire pour nos auditrices et nos auditeurs l'éloge de mon prédécesseur Jean Fourastier en section de morale et sociologie de l'Académie des sciences morales et politiques. Jean Fourastier est un économiste connu, vous l'avez dit, et par les confidences qui m'ont été faites par ses lecteurs, car Jean Fourastier est toujours lu, Les Trente Glorieuses de 1945 à 1975, c'est le titre de son livre le plus célèbre. Et tous les économistes, tous les étudiants, tous les professeurs, sinon tous les journalistes, connaissent ce livre. Et je sais donc l'intérêt que l'on continue à prendre à ces travaux, d'autant plus que, avec quelques confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, avec des journalistes, avec des universitaires, nous avons constitué un comité Jean Fourastier. Jean Fourastier a été un homme fidèle aux séances du lundi après-midi de l'Académie des sciences morales et politiques, un peu parce qu'il se sentait chez lui et parce que la courtoisie qui marque les relations entre académiciens lui était agréable, car il retrouvait dans cette compagnie, avec les prestiges de la culture, une égalité d'humeur et des échanges d'humanisme qu'il appréciait tant. En parlant de lui, je puis dire qu'il a été un homme impressionnant. Il l'était à de nombreux titres, par sa vie, certes, par son œuvre, comme par sa manière d'être, par l'ampleur de sa curiosité, par l'originalité de sa pensée, par l'attention compréhensive qu'il portait à la condition humaine en général, mais aussi au sort des hommes, parce qu'une véritable hantise l'habitait, celle de contribuer au progrès de la société française, et c'est pourquoi il a fait des découvertes qui contribuèrent non seulement à faire avancer la science économique, mais encore, et j'insiste sur ce point, mais encore à la faire sortir de la froideur scientifique. Vous savez, les économistes de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, ils n'avaient pas de cœur, et Jean Fourastier avait du cœur. Il a voulu enrichir de chaleur humaine cette économie par la recherche incessante, jusqu'à ces derniers moments, de tout ce qui pourrait être utile aux hommes. Et comment, au début de mon propos, ne pas être dans ces conditions éblouies, et je supplie les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, qui ont choisi Canal Académie pour savoir ce qui se dit à l'Institut de France, sur les quais Conti, près de la Seine, en face du Louvre. Oui, je supplie les auditrices et les auditeurs de me permettre d'évoquer la mémoire de Jean Fourastier pour dire son œuvre, ce qui a fait sa supériorité, et rappeler comme il se doit ce qu'ont été sa carrière, ses livres, les thèmes de sa pensée et de son action. Mais je ne peux réussir que si jamais je ne perds de vue que sa vie a vraiment été une. Alors à Moulins, le 30 octobre 1973, Il y a donc plus de 22 ans, au moment où je prends la parole sur cette antenne, le 7 décembre 2005, mais sur notre médiathèque, les auditeurs le trouveront encore pendant des mois et des années, donc le 30 octobre 1973, je répète la date, un jeune sénateur de l'Allier, c'est-à-dire votre serviteur Jean Cluzel, un jeune sénateur de l'Allier recevait Jean Fourastier, et cet académicien avait accepté de présider un colloque, organisé pour quoi ? Eh bien, organisé pour commémorer le centenaire de la naissance d'un homme qui a été connu, qu'il est moins aujourd'hui. Il s'appelait Émile Guillaumin. Ce fut le premier paysan écrivain de notre histoire littéraire. C'est un Bourbonnais, c'est-à-dire du département de l'Allier, au centre de la France, département plus connu parce que il comprend la ville de Vichy. Émile Guillaumin a écrit en 1904 ce chef-d'œuvre qui s'appelle « La vie d'un simple », c'est-à-dire « La vie d'un paysan métayer », c'est-à-dire cultivant à moitié fruit pour le propriétaire et pour lui, moitié chacun, auteur de « La vie d'un simple », donc paru en 1904. J'avais eu une grande joie de recevoir Jean Fourastier à Moulins pour présider cette commémoration, mais à première vue, grande était la distance, me semblait-il, entre l'écrivain de renommée mondiale, Jean Fourastier, reconnu comme l'un des pionniers de la science économique moderne, et l'humble paysan du Bourbonnais, tâcheron de l'écriture Émile Guillaumin, auteur de La vie d'un simple, qui, tout le jour, travaillait ses champs pour, le soir, à la veillée, comme l'on disait, noircir page sur page. Mais en ce colloque du 30 octobre 1973, il m'est vite apparu, je présidais alors, il m'est vite apparu que de profondes affinités rapprochaient les deux hommes. Et c'est ce qui me paraît intéressant de souligner en ce moment à l'antenne de Canal Académie. Parce que Jean Fourastier connaissait parfaitement l'œuvre majeure d'Émile Guillaumin, qu'il devait du reste citer au début d'un livre qu'il faudrait lire. Il a pour titre « Ce que je crois ».« Ce que je crois » de Jean Fourastier. Et puis il a fait un autre livre, il a écrit un autre livre, « Écrivain, témoin du peuple ». C'est parce que Jean Fourastier, dans son enfance, avait été lui aussi un homme de la terre, qu'il avait appris à estimer ses solides vertus paysannes qu'Émile Guillaumin sut illustrer à sa façon dans sa vie et dans son œuvre. Attention, ne confondons pas, parce que lorsque l'on parle de l'Allier, lorsque l'on parle de Vichy, lorsque l'on parle de paysans, certains peuvent penser que c'est le retour à la terre et que ça a des relents un peu réactionnaires, un peu retardataires. Non, Émile Guillaumin était un homme de gauche, sincèrement de gauche, un homme de gauche au sens de progrès du terme. Puis-je dire maintenant que cette convergence entre deux hommes aussi différents m'a touché en raison de mon propre attachement à nos racines communes rurales, nos racines communes paysannes, Émile Guillaumin, Jean Fourastier et moi-même. Hélas, jusqu'à sa mort, je n'ai pas eu la chance de revoir Jean Fourastier, mais cette rencontre de 1973 a rendu plus facile pour moi l'accès à son œuvre, comme s'il s'était agi d'un ami que je retrouvais, et comme si j'avais eu le privilège d'être admis chez lui. À l'époque, il habitait rue Lecourbe, dans le 15e arrondissement de Paris, et de contempler, dans la bibliothèque de son appartement, la totalité des ouvrages publiés, plusieurs dizaines. Sur ses rayonnages étaient également conservés ses manuscrits. J'ai eu, grâce à Françoise Fourastier, son épouse, grâce à Jacqueline Fourastier, sa fille, j'ai eu l'immense privilège de consulter ses manuscrits. On les voit rédigés d'une main assurée, pratiquement sans rature. Et c'est pourquoi je vous fais cette confidence, car c'est bien là l'image d'une manière d'être dans la vie et d'une existence qui s'est déroulée d'un trait, sans rupture, sans dispersion, afin de toujours aller droit au but. Alors, aller droit au but, c'était quoi pour Jean Fourastier ? La vie de Jean Fourastier a été pleinement remplie. Pourquoi ? Parce qu'elle a été pleinement utile. Il est né en 1907... à Saint-Benin-d'Asie, dans la Nièvre. Mais ses véritables racines se trouvent en Quercy, dans ce petit village de Douelle, où il a pu retrouver trace de ses ancêtres depuis 1575. C'est là qu'il a vécu une partie de son enfance, lorsque sa mère et lui s'y réfugièrent durant la guerre. Attention, pas la dernière guerre, celle de 1914-1918, alors que son père était au front. Il a connu une vie semblable à celle de tous les petits paysans de cette époque, au rythme des travaux de la terre, proche de l'ânesse, du bœuf, du canard et de l'oie, parce qu'on est en Quercy, c'est-à-dire le Périgord, et on fait de l'oie. « Mon cerveau, dit-il, s'est formé dans le monde des hommes qui pensaient peu, ne lisaient guère et n'écrivaient pas. » Il entre fonctionnaire des finances dans le service public, et toute sa vie, il partage ses activités entre le service de l'État, l'enseignement et l'écriture. Comme économiste, comme sociologue, comme philosophe, il fut un maître du style, par la clarté, par la simplicité, par l'élégance de sa phrase. Et vous serez, je pense, d'accord avec moi qu'il est peu d'écrivains qui fassent autant penser à l'observation de Pascal, je cite Pascal, « Quand on voit le style naturel, on est tout étonné et ravi, car, ajoute Pascal, on s'attendait de voir un auteur et on trouve un homme. Si nous pouvions trouver autant d'hommes aujourd'hui à travers les livres que nous lisons, je laisse un point d'interrogation à cette phrase. Je reviens à Forastier. Ce fut un auteur classique, dans tous les sens du mot, comme le montre la place éminente qu'il occupe en de nombreux manuels scientifiques et universitaires. Ce qu'il faut savoir, et ce sur quoi je veux insister, c'est que grâce à ses qualités d'esprit et de plume, il fut un incomparable vulgarisateur. En effet, il a réussi à faire accéder un large public à l'intelligence des problèmes actuels de l'économie. C'est tellement compliqué l'économie. Eh bien lui, il l'a rendu simple à comprendre. Et il a contribué à trouver des solutions novatrices qui l'ont fait reconnaître comme l'un des penseurs les plus influents de la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut savoir qu'il avait passé 26 années au plan, à une époque où le plan en France comptait, c'est-à-dire dans les années 50, 1950 à 1980. Il était quand même ingénieur de l'école centrale, une de nos très grandes écoles. Mais en même temps, il avait fait du droit et de la sociologie politique. Et puis en 1946, au lendemain de la guerre, la dernière, Jean Monnet l'a appelé près de lui comme collaborateur. Jean Monnet, nous le savons, il faut rapprocher Jean Monnet de Robert Schuman et de l'Europe. Et là, nous avons, chers auditeurs, une trilogie. Jean Monnet, Robert Schuman, Jean Forastier, ne l'oublions pas. Il a été le conseiller économique et technique de Jean Monnet. Et pour Jean Forastier, qui a passé 26 années au commissariat général au plan, ce furent les années les plus fécondes de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il avait le sentiment de collaborer à une œuvre utile, non seulement pour les Français, mais encore pour l'humanité entière. Et de fait, les résultats de ses travaux furent étonnants. Au lendemain de la guerre, pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment et qui n'avaient pas connu ces lendemains, et pour cause, au lendemain de la guerre, tout était à reconstruire, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et bien ailleurs, en Asie, en raison de la guerre dans le Pacifique, autour du Pacifique, entre le Japon et les États-Unis, et les Anglais, les Australiens. De fait, les résultats donc furent étonnants. Et au lendemain de la guerre, tout était à reconstruire et pour cela à inventer. À inventer pourquoi ? Eh bien, pour que la France pût retrouver la croissance dont elle avait perdu jusqu'au souvenir. Et pour les gens de ma génération, ce furent 30 années de victoire économique, mais en même temps de travail très dur. Ces années furent également, entre 1950 et 1975, dans les administrations comme dans les entreprises, l'époque de la relève par une nouvelle génération de décideurs et d'entrepreneurs, c'est-à-dire de gens qui savaient décider et de gens qui savaient entreprendre. Des hommes nouveaux arrivaient aux commandes. En ces circonstances, où ils répondaient si exactement aux besoins, le commissariat général au plan devait rapidement s'assurer un prestige, attention, un prestige pas seulement national, mais un prestige mondial. Et pour une fois, nous Français, nous n'exagérons pas. Ce commissariat au plan à la française a été, pour de nombreux pays émergents, également un modèle. Alors, Jean Fourastier a fait l'historique de cette grande entreprise de planification. Mais dans sa modestie, il ne parle pas de lui-même. Alors, pour moi qui parle de Jean Fourastier en ce moment sur l'antenne de Canal Académie, pour moi qui lui ai succédé à l'Académie des sciences morales et politiques, dans la section de morale et sociologie, j'ai cherché qui avait parlé de Jean Fourastier. J'ai trouvé Jean Monnet. Et Jean Monnet lui a rendu justice en évoquant les débuts de leur relation. Je cite Jean Monnet. Fourastier vient me dire, nous avons à peine, c'était dans les années, début des années 50, nous avons à peine retrouvé notre productivité d'avant-guerre qui, vous le savez, était inférieure à celle des grands pays industriels. Jean Monnet s'adresse en réponse à Jean Fourastier. Que proposez-vous? Eh bien, la réponse de Fourastier est claire. Il propose de créer une organisation à la mesure de ce problème et de mettre en œuvre des actions d'information et de formation qui, de proche en proche, changeront les mentalités. Dans sa présentation de l'ouvrage réalisé sous la direction de Jean Fourastier, qui a pour titre « Migration professionnelle », paru en 1957, Alfred Sauvy, un autre grand de la sociologie politique française, un spécialiste de la démographie, Alfred Sauvy illustrait cette idée par une comparaison. Je cite maintenant Alfred Sauvy. « Celui qui détruit d'un coup de pied une fourmilière voit les fourmis s'affairer, reconstruire une fourmilière identique à la précédente parce qu'elle correspond à leur savoir technique. » Et Alfred Sauvy ajoute « Ainsi en est-il de la fourmilière humaine. Si on ne change pas leur mentalité, les hommes refont leur économie détruite à l'identique, quels que soient les moyens techniques nouveaux dont on les dote. » Trois citations. Jean Monnet, Jean Fourastier, Alfred Sauvy, sur lesquels nous ferions bien de méditer pour notre France des temps actuels au début du XXIe siècle. Alors je reprends le cours de mon propos. Comment pouvait-on, en ces années de l'immédiate après-guerre, c'est-à-dire au début des années 50, doter l'économie française des cadres indispensables à la rénovation économique nécessaire? Et les membres du commissariat au plan étaient, et ils voulaient l'être, des têtes pensantes. Ils étaient des humanistes. Il n'était donc pas question pour eux de prendre des mesures autoritaires. J'insiste sur ce point. Alors qu'aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, on attend tout de l'État, on attend que l'État légifère et que l'État dirige. Ce n'était pas l'État d'esprit des années 50. Et c'est pourquoi, ma génération, nous avons réussi. Il s'agissait, nous disent Jean Monnet, Alfred Sauvy, Jean Fourastier, il s'agissait de persuader le maître mot, c'est-à-dire les réponses à tous les problèmes, fut information. Et voilà pourquoi nous avons créé Canal Académie, l'Académie des sciences morales et politiques, pour nous adresser à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour vous informer. Et puis après, vous prenez vos décisions en fonction des problèmes qui sont les vôtres et des responsabilités que vous assumez. Je reviens à Jean Fourastier. Enseignant passionné et passionnant à l'École pratique des hautes études, enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris, enseignant au Conservatoire national des arts et métiers, enseignant à l'École nationale d'administration, cette pourvoyeuse de nouveaux fonctionnaires, Jean Fourastier, pendant des décennies, a influencé profondément des générations d'étudiants, dont beaucoup devinrent ses disciples, mais aussi dont beaucoup devinrent ses amis. Et grâce à lui, ces étudiants purent accéder à la compréhension du monde économique et social dans lequel ils allaient vivre et travailler. C'est en 1968 que Jean Fourastier fut élu à l'Académie des sciences morales et politiques, et il ne succédait pas à n'importe qui. Il succédait à Robert Garrick, le fondateur des équipes sociales, donc un autre humaniste. En 1979, il assuma la présidence de l'Académie, puisque chez nous, nous ne présidons que pour un an, et nul ne s'est étonné que l'humaniste qu'il était et choisi pour thème de son année la condition humaine. Alors, vous pensez tout de suite au livre célèbre d'André Malraux. Non, ça, c'était le programme 1979 de l'Académie des sciences morales et politiques. Pendant plus de 40 ans, Jean Fourastier a donc été le témoin et l'interprète de notre temps. Il a eu la chance de vivre ces années qui ont vu le monde changer plus profondément et plus rapidement que jamais même au temps de la révolution industrielle, fin 18e et tout au long du 19e, et puis l'autre révolution qui s'est abattue sur le 20e siècle. Et non seulement Jean Fourastier a vécu cette période, mais il a voulu la comprendre. Et l'ayant compris, il a voulu l'expliquer après en avoir, ce qui est mieux encore, prévu les développements. Il a édifié progressivement son œuvre écrite, et en l'édifiant, il a peu à peu élaboré un système de pensée inspiré par la connaissance de la réalité économique, par la connaissance de la réalité sociale, par la connaissance de la réalité technique, en même temps qu'il était éclairé par les préoccupations morales d'un humaniste. Alors, vous voyez tout de suite que ce n'était pas l'homme de la pensée unique, comme maintenant, que ce n'était pas l'homme de l'économiquement correct, que ce n'était pas l'homme du politiquement correct. Car ce qui est remarquable dans sa pensée, c'est qu'elle est à la fois celle d'un homme d'action et celle d'un homme de réflexion. Il a été tout, sauf un de ces intellectuels qui élucubre de belles idées, à grand renfort de bons sentiments, avec le mouchoir près des larmes qui elles-mêmes sont proches de couler, mais qui ne se soucie pas de bien voir ce que sont les choses. Alors que lui, Jean Fourastier, dans un domaine aussi complexe que l'économique et que le social, il a voulu tout comprendre et, si possible, non pas tout prévoir, mais prévoir le maximum des choses. Et c'est ainsi qu'il a pu exercer une action très profonde, non seulement dans l'ordre des idées, mais également dans celui des réalisations économiques. On peut dégager 5 thèmes principaux, fruit de toute une vie de travail et de son talent. Alors, le premier est aujourd'hui au centre de la science économique, car il a été l'inventeur du système d'évaluation et d'évolution, évaluation et évolution, des hausses réelles de revenus, puisqu'il a su, parmi les tout premiers, en démontrer l'importance qui marque le progrès technique et la productivité. En fait, il a inventé cet instrument simple et permanent pour mesurer le niveau de vie. Et ce principe simple et permanent, c'est tout simplement le montant du salaire horaire du travailleur non qualifié rapporté aux principaux prix. C'est ce qu'on appelle en définitive, dans le langage courant, le pouvoir d'achat. Eh bien, l'inventeur la réflexion sur le pouvoir d'achat et de sa mesure, c'est Jean Fourastier. Et toute sa vie, il est demeuré attaché à ce mode de mesure et après lui. Mais qui sait aujourd'hui, parmi ceux qui parlent du pouvoir d'achat et de son évolution, qui sait que son inventeur est Jean Fourastier? Le deuxième thème, pour aller vite, concerne la rapidité de l'évolution économique et sociologique de la France. Car il a été l'un des premiers également à distinguer que l'évolution économique et sociologique allait de pair. Qu'il n'y avait pas d'un côté l'économique et de l'autre côté la sociologie, mais que ça allait de pair. Il l'a illustré d'une manière très personnelle dans son « Ce que je crois », en parlant des familles de son cher village de Douel en Quercy. Sa troisième phase de son travail est celui des faits d'inégalité. Oui, car il était très sensible à l'inégalité. Ce sujet est de nos jours très médiatisé. Il ne l'était pas encore du temps de Fourastier dans les années 50-70. Et surtout, ce sujet était obscurci par des considérations à la limite de l'esprit partisan. J'insiste, obscurci par des considérations à la limite de l'esprit partisan. Lorsque l'on veut être scientifique, il ne faut pas être partisan. Et Jean Fourastier a fait là encore œuvre originale. Il s'est attaché à présenter une mesure scientifique, je dis bien une mesure scientifique des faits d'inégalité, mais aussi de leur évolution, ce qui lui a permis au passage de corriger bien des idées reçues. Et il a également noté que la réduction de l'inégalité a un coût et que malgré le progrès économique, l'insatisfaction est croissante. Les hommes n'en ont jamais assez. C'est normal du reste. Nous espérons toujours avoir mieux, obtenir mieux. Mais il faut savoir pourquoi, il faut savoir comment. Et il faut savoir pour quel usage. Ça, c'est moi qui ajoute. Et si le mouvement d'égalisation est incontestable, personne ne risque plus d'estimer où peuvent s'en situer les bornes. Comprenons bien, nous voulons le progrès sans fin. Et pour faire comprendre ce phénomène, assez déconcertant, Jean Fourastier comparait les besoins des hommes à des sphères de rayons croissants. L'inégalité plus forte des siècles passés semblait mieux tolérée par nos ancêtres, tandis que la constante évolution contemporaine vers l'égalité, vers le mieux-être et le mieux-vivre, crée à jet continu de nouvelles sources de frustration et d'insatisfaction. Il faut voir ce que nous construisons, il faut voir l'augmentation de la croissance, et puis il faut voir que toutes et tous ne participent pas également à cette croissance et à ses fruits, d'où les frustrations et les insatisfactions dénoncées déjà par Jean Fourastier dans les années 50-75. Et alors pour lui, il estime que La Fontaine n'a pas choisi le bon symbole. Il dit « La grenouille ne veut pas se faire aussi grosse que le bœuf, elle veut seulement, ajoute-t-il, se faire aussi grosse que les grenouilles qu'elle voit plus grosses qu'elle. » Je crois que c'est là une bonne réplique à notre sympathique La Fontaine. Alors j'arrive à ce quatrième thème de ses travaux, c'est la conscience qu'il a du destin de l'humanité. Je reviens à son « ce que je crois », parce que si on veut bien comprendre Jean Fourastier, il faut lire son « ce que je crois ». Jean Fourastier a des pages inoubliables pour nous faire méditer sur de grands textes, tels que le monologue d'Hamlet ou celui de Figaro, de Beaumarchais. L'idée fondamentale est en effet celle du tragique de notre destinée. Là, je le cite. « Un tragique, dit-il, décuplé par le mystère qu'il implique. De fait, l'humanité a persisté et persiste depuis 20, 50, 100 000 ans. Mais ce n'est qu'à travers et dans la misère, à travers et dans la brutalité, à travers et dans la violence, à travers et dans l'orgueil, à travers et dans l'erreur, à travers et dans la souffrance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que de la préhistoire à Sumer, ou bien des Assyriens à l'archipel du Goulag, l'humanité n'a trouvé ni les instruments conceptuels, ni les instruments matériels propres à maîtriser son destin. Et pourtant, continue Jean Fourastier, le savoir humain s'est prodigieusement développé. Pourtant, les techniques ont permis de spectaculaires améliorations. Et oui, mais tous ces progrès sont insuffisants, puisqu'un Einstein a pu écrire, je le cite, « Plus nous savons, moins nous comprenons ». Voilà de quoi faire réfléchir. Alors le cinquième thème, je reviens à Fourastier, dans quelque sorte le couronnement de ses réflexions. Il se trouve exposé dans ses essais de morale prospective qu'il a fait paraître en 1976 et dans son « Ce que je crois » dont je viens de parler plusieurs fois. Et oui, parce que son couronnement, c'est sa foi. C'était un catholique, mais un catholique tolérant, un catholique libéral. Il était très scrupuleux pour ce qui concerne sa pratique religieuse, mais très libre vis-à-vis de ses amis et très respectueux de la liberté de chacun, bien entendu. Ça ne saurait durer, c'est autrement. Et pour lui, la religion doit pleinement assumer la science contemporaine. Car, dit-il, la science est un moyen de connaître l'homme, sa raison d'être, sa fin, et le Créateur s'il existe. Mais la science ne suffit pas à expliquer le réel. Alors, c'est parce qu'il imagine le réel, au contraire, que chaque jour dans le monde, des milliers d'hommes abandonnent leur religion ancestrale et se satisfont de la réalité immédiate. Certes, la science leur donne les moyens de vivre, mais dans le même temps, en raison des frustrations dont j'ai parlé tout à l'heure, elle leur retire autant de raisons de vivre. Jean Fourastier en arrive alors à penser que l'humanité va bientôt connaître une période où une réflexion forte, exigeante, sur ses fins dernières sera nécessaire à sa survie. J'allais presque dire que c'est pour répondre à Jean Fourastier, à cette pensée, qu'avec quelques amis, l'Académie des sciences morales et politiques a décidé de créer Canal Académie pour s'adresser au vaste monde, à celles et ceux qui réfléchissent à leur destinée personnelle et à notre destinée commune, puisque nous sommes tous embarqués sur la planète, c'est-à-dire sur le même bateau. Ah, mais je reviens à Fourastier. Fourastier qui affirme ses convictions. La connaissance de la foi dépend de toutes les informations qu'une personne humaine peut recueillir sur le réel et sur ce qui dépasse le réel. Les unes sont d'origine naturelle, sensorielle, expérimentale, je parle de la science. Les autres sont d'origine mentale, informative, la révélation pour ceux qui croient une religion, qui pratiquent une religion. Mais loin de s'opposer, de se contredire, ces deux sources d'informations se complètent. Voilà ce qui est important. Pour lui, n'est-ce pas ? Il dit « il n'y a pas antinomie entre la science et la foi, elles se complètent ». Pour Jean Fourastier, le salut réside dans une conception religieuse du monde, c'est-à-dire dans la croyance en Dieu, qui fournit des fondements solides tant au progrès de la science qu'à l'équilibre de la condition humaine. Ah, j'arrive à la conclusion de mon propos. J'ai rappelé les cinq thèmes des travaux de Jean Fourastier. Mais si vous me permettez, pour conclure, chers autrices, chers auditeurs, il importe de ressaisir plus qu'une idée. Il importe de ressaisir chez Jean Fourastier, cet homme à qui j'ai succédé, cet homme qui a été et demeure mon maître à penser, il existe chez Jean Fourastier une attitude profonde dans l'ordre de la vie intellectuelle. Et il l'a exprimé dans quelques lignes qui constituent pour moi, qui va constituer pour vous, je l'espère, son autoportrait. Et il l'a fait non sans humour, je le cite. « Je suis toujours resté méfiant à l'égard des intellectuels. Je me suis toujours étonné d'eux. J'ai vécu parmi eux sans pouvoir m'habituer à eux. Je distingue nettement dans ma géographie humaine les poètes d'une part, les hommes de science de l'autre, les intellectuels. Les premiers, les poètes, expriment ce que pense confusément le peuple. Les seconds, les scientifiques, lui font découvrir le réel. Les troisièmes, les intellectuels, font du bruit. Alors, je m'insère un peu dans parmi Fourastier. Vous voyez cet humour décapant, puisque les intellectuels font du bruit, dit-il. Or, si quelqu'un est intellectuel, c'est Jean Fourastier. Mais lui, il ne fait pas du bruit. Lui, il recherche. Lui, il travaille. Lui, il est sérieux. Lui, il est libre. Pour sa part, Jean Fourastier ne fut jamais tenté par ce genre de bruit. Il avait choisi d'être un homme de science, rigoureux, efficace. Et c'est pourquoi il lui arriva tout naturellement d'être aussi un authentique philosophe. Voilà, j'arrive à la fin. Je voudrais terminer par quelques phrases du même Jean Fourastier. Je le citerai, c'était la conclusion de son discours de remerciement le 8 octobre 1969, lors de la remise de son épée d'académicien. C'était la conclusion de Jean Fourastier, si vous le voulez bien, ce sera la mienne. Comment mieux faire, du reste, lorsque l'on parle d'un auteur qui a été et demeure un maître, de lui emprunter la conclusion à son propre discours, à sa propre présentation. « Je pense, déclarait Jean Fourastier, que l'homme d'aujourd'hui, emporté à une vitesse presque hallucinante, dans une période transitoire, sans issue encore visible, traumatisé par une vie quotidienne de plus en plus frénétique, il ne peut trouver quelque équilibre que par une difficile, mais une inéluctable alliance entre les valeurs traditionnelles qui ont fait durer l'humanité depuis 50 000 ans et les valeurs de la science expérimentale qui la font progresser si vite depuis 200 ans. 50 000 ans d'un côté, j'ajoute, 200 ans de l'autre. Je reprends ma lecture de Fourastier pour terminer. C'est l'alliance de la science et de la charité parce que l'esprit scientifique expérimental donne à la charité sa réalité et parce que la charité donne à l'esprit son humanité, en terminant, quel homme de cœur voudrait contredire à la pensée de Jean Fourastier.
Merci Jean Cluzel. Je rappelle que vous avez été élu au fauteuil de Jean Fourastier en 1991, vous avez été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques en 2004 et que vous présidez la radio Canal Académie. Vous êtes donc en quelque sorte porteur de la mémoire de Jean Fourastier, ce grand économiste. Et d'ailleurs, vous participez au comité Jean Fourastier qui consacre beaucoup de temps à la vie et à l'œuvre de Jean Fourastier. C'est bien cela, Jean Cluzel ?
C'est bien ça. Nous avons créé ce comité avec celui qui m'a succédé au perpétuellat, Michel Albert, parce que nous sommes tous les deux des disciples de Jean Fourastier. Et nous l'avons fait, il faut le dire, grâce à la fidélité de la fille de Jean Fourastier, mademoiselle Jacqueline Fourastier, qui a été professeure au Conservatoire national des arts et métiers, et qui maintenant dirige avec une humilité, une modestie, mais une efficacité exceptionnelle, l'association philotechnique qui a été créée au milieu du 19e siècle et qui assure un enseignement par des professeurs bénévoles à 8000 étudiants de toutes catégories sociales et de tous âges à Paris. Donc Jacqueline Fourastier, qui non seulement est la fille de Jean, mais en plus, elle est la fille de son esprit, elle a continué son œuvre comme enseignante elle-même. Elle a du reste travaillé également avec son père dans la deuxième partie de la vie du père et la première partie de la vie de Jacqueline. C'est donc grâce à elle que nous avons constitué ce comité Jean Fourastier qui maintient la flamme et qui veille à ce que le souvenir de Jean Fourastier ne s'éteigne pas. Et nous publions régulièrement des livres consacrés à son œuvre et à sa vie.
Et le comité Jean Fourastier a son site internet. Je vous donne l'adresse www.jean-fourastier.org. Merci encore Jean Cluzel.
C'est moi qui vous remercie.
Canal Académie a donc enregistré une série d'émissions sur Jean Fourastier, dont une interview avec Jacqueline Fourastier. Elles sont en archive sur notre site internet dans la rubrique « En habit vert ».